Mireille Kanyangi.
Merci de nous rester fidèles. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition dont voici les grands titres. La frontière burundo-congolaise de Gatumba-Kavimvira, de nouveau opérationnelle dès ce lundi. Une grande joie pour les voyageurs et Congolais qui avaient fui la guerre à l'est de leur pays, la RDC. Dans cette édition, nous reviendrons sur des arriérés des contributions annuelles par certains pays, membres de la communauté est-africaine. Un député de l'Assemblée législative est-africaine s'exprime. Grogne des motards opérant au nord de la ville de Bujumbura et ne peuvent s'approvisionner en carburant que sur deux stations-service. Les détails, c'est dans cette édition mise en onde par François Akiman.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Bienvenue encore une fois. La frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo est de nouveau ouverte depuis la matinée de ce lundi 23 février. C'est après sa fermeture par le gouvernement burundais en date du 12 décembre dernier. Suite à la présence des groupes armés à Uvira, aucune cérémonie n'a été organisée, n'a eu lieu. Des voyageurs des deux côtés et d'autres, surtout des réfugiés congolais, ont pu traverser sans grand des difficultés. Les détails de Jérémy Kouhima.
La reprise des activités s'est faite sans cérémonie officielle. Du côté burundais, l'inspecteur général des migrations, Maurice Mbonimpa, a annoncé à ses agents que les services fonctionnent désormais normalement, comme auparavant. Côté congolais, les autorités confirment simplement que la frontière est opérationnelle et est ouverte de 8h à 17h30. Sur place, un mouvement important des retournés congolais a été observé dès les premières heures de la matinée. Il est un peu plus de 9h ici à Kavimvira. Des familles arrivent avec des bagages, certains visiblement fatigués mais soulagés. Environ 500 personnes ont déjà traversé en provenance du Burundi cette même matinée. Beaucoup affirment avoir vécu des conditions difficiles en exil, tout en remerciant les autorités burundaises pour l'hospitalité et récit.
Je suis très très content au point que je ne saurais pas comment est-ce que je peux l'exprimer. Voir la terre, là je me sens tellement libre. Je vais voir la famille à partir. D'ici, je vois les amis, les voisins. Ça a fait une grande joie parce qu'à Bujumbura, on restait un peu cloué. On est étranger. Bon, pour vous déplacer, il faut certains documents. Tout ça. Heureusement, nous, on avait des documents. On avait cette opportunité de pouvoir circuler et voir la ville. Un réfugié, tu n'as pas d'emploi. Donc, la vie est aisée lorsque vous travaillez. Mais quand vous ne travaillez pas, la vie ne peut pas être à l'aise. Et surtout qu'on logeait. Nous, on était dans des familles d'accueil, on logeait. Mais pour les autres, il y a celui qui a fui l'été au travail. Il n'avait qu'un soulier, un pantalon, une chemise. Il n'avait même pas les documents à part la carte de lecteur. Maintenant, il va se sentir aisé comment? Non, le gouvernement burundais a été débordé parce que cela est arrivé, bon. Ils ne se sont pas préparés. Voilà. Mais nous les remercions pour la bonne volonté. Et lorsque le voisin vous accueille chez lui, vous acceptez tel qu'il est.
Les services migratoires précisent que les Congolais sans documents sont autorisés à rentrer au pays, tandis que les voyageurs se rendant au Burundi sont soumis à un contrôle rigoureux. Cette réouverture marque une étape importante pour de nombreuses familles séparées par la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et surtout les petits commerçants transfrontaliers qui dépendent beaucoup des activités transfrontalières. Uvira, Jérémy Kouhima pour Radio-Télévision Isanganiro.
Parlons encore coopération. Quelques pays membres de la communauté est-africaine n'ont pas encore payé leur cotisation annuelle, causant un déficit de plus de 89 millions de dollars américains, selon le journal en ligne The East African. Selon toujours ce journal, seuls le Kenya et la Tanzanie sont en ordre. La République démocratique du Congo est la plus endettée avec 27 millions de dollars américains, suivie par le Burundi avec 22,7 millions de dollars, le Sud-Soudan avec des arriérés de 21,8 millions de dollars, la Somalie avec des arriérés de 10,5 millions de dollars, le Rwanda avec des arriérés de 5,2 millions de dollars américains et l'Ouganda avec des arriérés de 1,1 million de dollars américains. Selon encore l'East African, les députés de l'Assemblée législative est-africaine n'ont pas encore reçu leur salaire. Cela fait des mois. Et le président du parti UPRONA, en même temps membre de l'Assemblée législative est-africaine, indique que lorsque l'un ou l'autre pays ne parvient pas à payer à temps la contribution, cela paralyse les activités de l'Assemblée. Olivier Nkurunziza indique que ce n'est pas pour la première fois qu'une telle situation se présente et qu'effectivement les pays membres doivent trouver des solutions adéquates. Il explique que l'Assemblée ne peut même pas chercher des partenariats avec d'autres communautés, d'autant plus qu'il serait dans ce cas difficile de voter des lois et faire le contrôle des institutions librement. Suivez-le au micro de Francine de Okubgayo.
Dans le sommet des chefs d'État, le Burundi avait demandé que le Burundi puisse contribuer en monnaie locale, faute effectivement de devises. Et cela a été accepté parce que à chaque année dans le budget, le Parlement vote la contribution du Burundi en monnaie locale. Alors le Conseil des ministres, effectivement, au niveau de l'EAC, mais aussi avec le secrétariat général, devrait s'asseoir et techniquement pour voir comment mettre en application cette décision. Et c'est une décision effectivement qui demande de voir la faisabilité au moment où le traité de l'Afrique de l'Est demande que les pays contribuent en dollars. Vous savez que les pays de l'Afrique de l'Est est en train de chercher comment mettre en place une monnaie unique et cela, avec la monnaie unique, ça devrait aider les pays de contribuer très facilement. Le Burundi contribue, c'est pas la première fois. Quand il y a ce genre de problème, on se débat, mais le pays comme la RDC, depuis son entrée, je pense que pas encore contribué, sauf 1 million de dollars. Et là, le Sud-Soudan, où on avait même abandonné les Arielais. Mais vous voyez, l'accumulation continue. Il y a la Somalie qui est nouvellement arrivée. Et je pense qu'effectivement, qu'il faut chaque fois s'asseoir et trouver des décisions qui peuvent aider l'intégration régionale, parce que les objectifs principaux de l'EAC sont de promouvoir l'intégration économique et sociale, politique et culturelle entre les pays membres. Les conséquences ne manquent pas. Effectivement, vous savez que sans moyens, on ne peut rien faire. Les activités de l'Assemblée, de faire le contrôle des différentes institutions, mais aussi de voter les lois pour effectivement vivre en dehors du pays, on a besoin de moyens. Les activités sont paralysées. Souvent, d'autres organes peuvent continuer à travailler parce qu'ils peuvent chercher des partenariats avec d'autres communautés internationales. Mais au niveau de l'Assemblée, c'est strictement interdit. Nous devons vivre par effectivement les contributions des pays membres pour éviter la corruption, d'avoter des lois pour protéger effectivement, parce que l'Assemblée représente la souveraineté des pays. C'est la raison pour laquelle nous devons utiliser les moyens de nos pays partenaires.
Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel.
Poursuivons avec cette édition. La Fédération des syndicats du secteur de l'enseignement au Burundi, FENASEB, estime que le remplacement des enseignants quittant leur poste pour aller travailler à l'étranger n'est pas une solution durable, car, dit cette fédération, les nouveaux recrutés risquent eux aussi de partir. Antoine Manouma, président de cette fédération, considère que le ministère burundais de l'Éducation ne devrait pas déclarer qu'aucune augmentation salariale ne sera accordée aux enseignants. Ah, car cela les démotive, poursuit-il. Selon lui, le ministère devrait plutôt présenter la situation réelle au gouvernement afin qu'il prenne une décision appropriée, d'autant plus que le gouvernement burundais affirme depuis un certain temps que le pays a commencé l'exportation des minerais. Suivez.
Le ministre ayant en charge l'éducation a ouvertement reconnu que le départ d'enseignants qui abandonnent le service est l'une des menaces importantes du secteur de l'éducation. Les écoles fondamentales et post-fondamentales ont déjà perdu 1800 enseignants au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2025-2026 seulement. Aujourd'hui, cet effectif est largement dépassé. Au niveau de l'enseignement supérieur, l'université publique a déjà perdu 47 enseignants de niveau doctorat depuis 2020 suite à la désertion. Ils viennent s'ajouter aux boursiers du gouvernement envoyés à l'étranger qui n'ont pas regagné le bercail. C'est un signe éloquent qui montre que les enseignants ont perdu l'attachement à leur métier parce qu'ils en tirent moins de profit. Dans ses propos, le ministre en charge de l'éducation a souligné que le gouvernement se trouve dans l'incapacité de revoir à la hausse les rémunérations des enseignants. Dans pareilles circonstances, les écoles resteront presque vides d'enseignants. Encore une fois, nous voudrions rappeler que le remplacement des enseignants partis n'est pas une solution durable, car même les nouveaux recrues resteront sur le qui-vive, attendant ainsi que les conditions exigées soient réunies pour rejoindre leurs frères et sœurs, car le poids de la misère est ressenti par tout le monde. On ne parlera plus d'expérience professionnelle, source de renforcement de connaissances et de compétences nécessaires pour asseoir les enseignements de qualité. Que le ministre qu'il soumette au gouvernement l'état des lieux et les propositions concrètes afin qu'une décision adéquate soit prise. Car le président de la République a déjà annoncé que le pays dispose d'un champ minier en phase de maturité et de la moisson est en cours. Nous n'hésitons pas de croire que l'accroissement de l'économie nationale s'en suivra. Et il faut que l'éducation soit parmi les secteurs prioritaires à financer pour fidéliser les enseignants. Car elle est la base de l'avenir de la nation et la réalisation de la vision 2040-2060.
Et certains citoyens exerçant le métier de conducteur de moto saluent le partage qualifié d'équitable de la quantité disponible de carburant. Néanmoins, ils se plaignent que seules deux stations-service qui leur ont été attribuées restent insuffisantes et ils demandent, ceux qui se sont entretenus avec nos reporters ce lundi au nord de la ville de Bujumbura, demandent que d'autres stations-service leur soient attribuées. Suivez ce micro-trottoir.
Nous saluons cette mesure. Toutefois, deux stations-service nous ont été attribuées, l'une à Gikizi et l'autre à Gatumba. Pour nous qui exerçons notre métier dans la zone de Kamenge, nous approvisionner en carburant à Gatumba pose un sérieux problème. Cette station est très éloignée et de plus, certaines restrictions nous empêchent d'y accéder facilement. Nous demandons donc qu'une autre station-service plus proche nous soit attribuée. Même pour les motards de Gatumba, il est très difficile d'accéder à la station de Gikizi, notamment en raison de routes fermées et des contraintes de circulation.
Concernant la distribution de la petite quantité de carburant disponible, nous déplorons également la décision de séparer les stations-service destinées aux motos de celles réservées aux tuk-tuk ou bajaj. Cela complique davantage la situation. Nous sommes particulièrement inquiets à propos de la station située à Gatumba. Son accès est très difficile et risqué. Comme le carburant est rare, nous sommes contraints de nous y rendre malgré le danger, car nous pouvons être interpellés par la police à tout moment. Nous sollicitons donc l'attribution de stations-service plus proches de nos zones de travail. Cela faciliterait grandement l'exercice de notre métier.
Enfin, il convient de souligner que de nombreuses motos circulent en ville. Il serait donc important de revoir la répartition des stations. La mesure est bonne en soi, mais pour une personne habitant à Bubanza, Muzinda ou Museyi, il est très difficile de se rendre à Gatumba pour s'approvisionner.
Des personnalités ayant occupé différentes fonctions dans le pays et qui sont accusées de différentes infractions sont parfois promues à d'autres fonctions au pays ou à l'étranger sans que des poursuites judiciaires aient été engagées. Et cela ternit l'image de l'administration publique. Selon Kefa Niwizi, président du parti Kodebo, selon lui, des personnes ayant commis des fautes dans l'exercice de leurs fonctions devraient être sanctionnées au lieu d'être reconduites à d'autres postes. Suivez.
Il arrive très souvent qu'il y a des personnalités qui soient accusées de commettre des fautes professionnelles, voire même des fautes pénales, mais au lieu qu'elles soient sanctionnées, on les voit continuer à exercer les activités, voire même dans certains cas, elles sont promues. Il s'agit d'une situation relativement anormale, parce que si quelqu'un a commis une faute professionnelle ou une faute pénale en rapport avec les fonctions, elle devrait être sanctionnée conformément à la loi ou au code du travail. Alors, cela montre que si, dans certains cas, les autorités pointent du doigt telle ou telle personnalité concernant les fautes qu'elle aurait commises, c'est pas ça finalement qui est en jeu. Ça doit être d'autres calculs ou d'autres malentendus politiques qui sont en jeu, qui font que cette personne est pointue du doigt. Il peut arriver aussi qu'on cherche à changer la personne dans l'emploi qu'il occupe, mais d'autres forces contraignantes empêchent qu'une telle décision soit prise. Cela donc met à mal l'image du travail, l'image des remarques données par les différentes autorités et peut encourager même les fautes professionnelles ou pénales relatives aux emplois. Nous invitons donc les plus hautes autorités de joindre l'acte à la parole en prenant des sanctions conformément à la loi pour toute personne qui a commis des fautes professionnelles ou pénales relatives à son emploi.
Kefani Wizi, président du parti Kodebou et des cultivateurs des communes Boubanza et Mhanda en province Bujumbura, demande des semences sélectionnées pour subventionner de maïs pour cette saison culturelle B. Disent ne pas comprendre pourquoi ces semences sont régulièrement disponibles pour les saisons culturelles A et C et pas pour la saison B. Des agronomes et moniteurs agricoles dans ces localités expliquent que l'État ne donne pas ces semences pour la saison B, car disent-ils, la majorité des cultivateurs du pays n'en ont pas besoin pour cette saison, nous rapporte Spes Caritas Kabanyana.
Les cultivateurs de Boubanza et Mhanda disent ne pas comprendre pourquoi ils ne reçoivent pas les semences de maïs subventionnées pour la saison culturelle B, alors que ce sont des semences qui produisent beaucoup par rapport aux autres, comme ils le disent. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro font savoir qu'ils ont de bonnes récoltes quand ils ont planté ces semences qui ne sont disponibles que deux fois par an pour la saison culturelle A et la saison culturelle C. Pour le moment des récoltes de la saison A, les cultivateurs qui ont planté ces semences subventionnées apprécient positivement les récoltes par rapport à ceux qui ont utilisé d'autres semences trouvées au marché et demandent à l'État de disponibiliser ces semences, surtout celles appelées Panal 53, pour chaque saison culturelle. Cela étant, les responsables agricoles contactés affirment que ces semences ne sont disponibles que pour deux saisons culturelles A et C. Elles ne sont pas données pour la saison culturelle B car beaucoup de cultivateurs n'en ont pas besoin, surtout ceux de l'intérieur du pays, selon la même source. Spes Caritas Kabanyana, Boubanza, Radio Isanganiro.
Et je viens de l'apprendre avec vous, l'ancienne sénatrice Spes Caritas Njebali Kanouye, nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Burundi. Et c'est dans un décret présidentiel de ce 23 février. Des agents de lavage automobile exerçant leurs activités de Washington à Bwari, en zone et commune Kayanza de la province de Butanyerera, disent que non seulement cette activité leur permet de subvenir aux besoins fondamentaux de leur famille, mais aussi de réaliser de mini-projets de développement. Patrick Senguiyumva. L'élément de Patrick Nsengiyumva n'est pas prêt, c'est plutôt la place à la chronique sportive de ce lundi.
Radio Isanganiro, chronique sport.
Le manque d'équipements ainsi que d'infrastructures destinées à la pratique du cricket constitue les principaux défis auxquels fait face la Fédération de ce sport au Burundi. Malgré cela, Pascal Nyabenda, directeur technique et coordinateur du développement du cricket au Burundi, affirme qu'il dispose d'un nombre satisfaisant d'arbitres et d'entraîneurs pour cette discipline. Jean-Marie Vianney, Ngendakumana.
Les équipes engagées dans le championnat de la deuxième division en cricket ne payaient pas aucun frais de participation. Selon Pascal Nyabenda, directeur technique et coordinateur du développement du cricket au Burundi, toute personne qui souhaite créer une équipe choisit d'abord un nom, généralement lié à la division qu'il souhaite participer, puis procède à son enregistrement auprès de la Fédération burundaise de cricket.
Dans notre compétition, les équipes ne payent pas les frais de participation et s'inscrivent dans notre compétition sans donner des frais de participation, c'est-à-dire qu'ils jouent gratuitement.
Le directeur technique et coordinateur du développement du cricket au Burundi reconnaît toutefois un manque d'équipement et d'infrastructures adaptées à la pratique de ce sport. Il fait savoir que cette situation de manque de terrain est déjà portée à la connaissance du ministère et à les sports dans ses attributions.
Les entraves ne manquent pas. Nous avons des difficultés à partir des terrains parce qu'aujourd'hui on utilise les terrains de football. Nous remercions notre ministère de sport parce qu'on a lui donné des rapports que nous voulons des terrains. Il nous a dit qu'on va entendre et il est en train de chercher là où il peut nous donner et on trace notre terrain qui est approprié dans notre jeu de cricket. Même ici, nous sommes en train d'utiliser des terrains de football. Mais on entend toujours que bientôt on nous donnera notre place là où on va installer le terrain de jeu de cricket.
Malgré cela, la Fédération burundaise de cricket dispose d'un nombre suffisant d'arbitres et d'entraîneurs, précise-t-il.
On a commencé de faire des formations en rapport avec les entraîneurs et les arbitres. Dans les 5 provinces que nous avons au Burundi, nous avons déjà un nombre suffisant des entraîneurs et des arbitres.
Le cricket est généralement pratiqué par des jeunes et à majorité des élèves, mais cela ne perturbe pas leur parcours scolaire. Ces élèves s'entraînent comme dans les autres disciplines sportives.
Le nombre, nous avons beaucoup de filles et de garçons qui jouent notre jeu de cricket. Et la plupart, ce sont des élèves, mais ça n'empêche pas de jouer le cricket parce que le cricket est comme sport comme les autres, comme le football, comme le volleyball, comme le basketball. C'est-à-dire que il cherchait le temps de jouer lorsqu'il venait à partir de l'école.
Les parents ne s'opposaient pas à la participation de leurs enfants dans la discipline de cricket. Pascal Nyabenda ajoute que beaucoup d'entre eux s'impliquent même activement dans la gestion des équipes.
Même les parents, je peux dire qu'ils nous facilitent de nous envoyer des enfants, des filles et des garçons. Il n'y a pas de lamentation des parents dans notre jeu de cricket, il y en a beaucoup de, parce que c'est un nouveau jeu, il y en a beaucoup de postes vacants. Ce sont des parents qui vont remplir les postes vides.
Le directeur technique et coordinateur du développement de cricket au Burundi fait savoir que le cricket a été introduit officiellement au Burundi en 2023. Il précise en outre que ce sport poursuit actuellement son expansion avec des initiatives en cours pour le vulgariser dans toutes les provinces du pays.
Ainsi se referme cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Eric Kouimana qui assure la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes.